que le voyage c'est très très formateur et que quand on a envie de le faire, il faut le faire, que c'est toujours extrêmement enrichissant et que ça aide à savoir mieux qui on est. Et quand on sait mieux qui on est, on fait forcément des choix qui nous correspondent plus.
Vous écoutez Fairy Tales, épisode 1, le grand départ. Alors, si vous vous souvenez bien, on se quittait alors que je tentais tout juste de sortir des brumes de ma soirée au cottage. J'ai fait un peu de chemin depuis. J'ai d'abord entendu ça.
Nous souhaitons une agréable traversée. Merci. Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of Captain Koik and all the crew, we'd like to welcome you on board the Pont Aven. We will be arriving in Plymouth at 1:15 p.m. British.
Et puis j'ai entendu ça.
We will be arriving in Plymouth in 30 minutes to help us prepare for the next sailing. Please could you kindly locate your cabin? Thank you for your cooperation.
Et j'ai enfin entendu ça.
Et là-dessus, je suis malade toute la nuit.
Ah.
Ouais, parce que j'ai fait une intoxication alimentaire.
Mais non.
C'est pas grave, c'était très beau quand même.
Mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Mais commençons par le commencement. Ok, alors là, il est 7h25. Et je suis dans la queue pour rentrer sur le ferry en voiture. Ouais, donc là, je suis un peu dans ma première phase, on va dire. Je viens juste d'arriver, donc je parle, je décris la situation.
Il y a des messieurs qui jouent avec la buée sur les vitres.
Parce qu'en fait, je m'emmerde un peu. Alors je me plains.
Bon, alors évidemment, il n'y a que ma fille qui avance pas.
À vrai dire, je vous avoue que je suis pas très sereine sur la route. Déjà de une, je suis fatiguée. De deux, je suis même pas certaine d'avoir tous les papiers pour embarquer. Parce que partir en Angleterre entre le Covid et le Brexit, bonjour la paperasse. Et puis bah, je commence à flipper. Je suis seule dans ma voiture, j'attends la gare maritime et puis tout devient concret. Et d'un coup, je réalise que bah, je vais être seule dans ma voiture pendant 3 mois. Alors là, je suis pas du tout dans l'excitation de partir. L'image que je m'étais faite de moi depuis un an de l'aventurière invincible avec ses Doc Martens, son chapeau colonial et son canif à la ceinture. Ah ouais, non mais on n'y est pas du tout là. C'est plutôt ambiance, je peine à retenir mes larmes et j'ai le ventre noué. Donc en fait, je crois que ça me rassure d'avoir le micro. Dans un sens, ça me fait quelqu'un qui parlait. Bon allez, on se reprend. On va pas pleurer devant le monsieur de la douane quand même. Et puis en plus, tout se passe bien, j'ai mes papiers, c'est en ordre, allez, ça passe. Du coup, je passe en phase 2. Et contre toute attente, c'est une arrivée plutôt joyeuse sur le ferry. Après une bonne heure et demie d'attente quand même. Le port, la mer, le pont et les oiseaux. La sensation du bateau qui bouge. Ok, c'est bon, c'est parti. On s'éloigne de la terre, on s'éloigne de Roscoff. Et c'est parti pour l'Angleterre. Donc je raconte encore un peu ma vie.
Je vous avoue que là, l'étape qui me fait le plus peur, à la rigueur, c'est encore d'arriver et devoir conduire à gauche. Ça va être sympa, on va bien voir. Bon, j'ai aussi un peu dans l'idée d'aller demander des conseils de survie à qui voudra bien m'en donner. On va aller voir ça sur le pont.
Ouais, bah j'ai beau plus avoir de boule au ventre, c'est pas si facile d'aller voir les gens. Il est pas encore quoi. 10h du mat, ça fait bien 6h qu'on est tous réveillés. Donc clairement, les visages sont pas méga accueillants. Et j'ai beau essayer de sourire à travers le masque, je crois que mon vieux regard biaiseux qui traduit la fatigue s'inspire pas franchement confiance. Alors après 1, 2, 3 cigarettes sur le pont et pas mal d'allers-retours d'un bout à l'autre des différents salons du ferry à chercher quelqu'un qui soit pas trop endormi ou prêt à converser, pff, ouais, sérieux, j'abandonne et puis je passe en phase 3, la bonne grosse sieste. Ambiance. Le bar du ferry, de la moquette, partout. Un canapé, d'un cuir jaune assez audacieux, mais somme toute confortable. Mais surtout, une vue imprenable sur la Manche, avec l'horizon brumeux et les oiseaux de mer qui passent devant la fenêtre. Bon allez, pour faire ta petite sieste, y a quand même pire. Alors je ferme les yeux, je commence à entendre parler anglais, et puis plus rien. Je me réveille. J'ouvre un œil, un autre. Puis il y a du mouvement autour de moi. Et puis là, j'entends un message comme quoi les passagers ayant une voiture garée sur le pont 4 sont amenés à rejoindre leur véhicule. Attends, sachant que moi, je suis garée. Bah, je sais pas du tout. Ah bah non. Parce qu'un petit boulet que je suis, j'ai pas du tout regardé en sortant de ma voiture. Si bien que je descends en catastrophe sur le pont 5 à tout hasard, et je constate que l'intégralité des voitures ne sont déjà plus là. Si ce n'est la mienne qui trône en plein milieu. Et croyez-moi, l'espace pour garer les voitures sur un ferry, c'est grand. Donc évidemment, je panique, je stresse, je me mets à courir partout, je demande de l'aide à qui voulait bien m'entendre. Bref, je me donne un peu en spectacle. Mais bon, je suis apparemment pas la première ou la dernière débile à qui ça arrive, parce que le personnel sur place me calme et m'explique très gentiment comment rejoindre la porte pour pouvoir sortir du bateau. Non mais ce boulet, quoi. Bon, je rentre dans ma voiture, je suis le chemin indiqué, je sors, et s'ensuit encore une fois une bonne heure d'attente avant de quitter la gare maritime de Plymouth. Mais c'est bon, je suis en Angleterre, je suis arrivée. Alors je sors tant bien que mal, et après quelques balbutiements d'un anglais tout à fait pathétique avec la douane anglaise, une nouvelle étape, conduire à gauche et rester en vie. Donc là, j'ai besoin de courage. Mais heureusement, juste à ce moment-là, à la radio, il y a une super musique qui passe. Et ça remotive direct. Alors, je vous passe tous les détails de la galère de la conduite à gauche, entre rond-point et sortie d'autoroute, mais finalement, ça se passe pas si mal. Disons en fait qu'après une, deux, presque trois heures de conduite, j'arrive en vie à Bath, et franchement, c'est déjà une belle source de fierté. Alors, après une bonne nuit passée à l'auberge que j'ai réservée, j'ai qu'une hâte, c'est de visiter la ville. On m'avait déjà vanté la beauté et l'atmosphère de la ville de Bath. Je suis pas déçue. C'est magnifique. Je déambule dans les rues, les boutiques, les monuments, les jardins et les parcs. Et j'ai l'impression que tous les gens que je croise ont l'air d'apprécier tout autant leur promenade que moi. Avec cette architecture géorgienne, on se croirait dans un roman de Jane Austen. Mais d'ailleurs, à propos de Jane Austen, il se passe quoi cette semaine ? Cette semaine, c'est le festival de Jane Austen. Il y a donc un certain nombre d'activités en rapport à Bath, une ville où elle a beaucoup écrit. Cet après-midi, nous allons à une réception pour danser, suivie d'un bal masqué dans la soirée, où nous pourrons arborer nos différents costumes. Mais contrairement à moi, mon compagnon s'habillera plus tard.
I'm wearing a modern fleece, but
yeah, I see, but you're beautiful.
Thank you.
Alors pour la petite histoire, son mari, il est en short, claquettes et maillot de foot. Donc ouais, c'est pas méga raccord. Mais bref, là encore, je crois que c'est ma bonne étoile qui m'a guidée. Moi qui voulais une petite ville qui me berce dans un autre temps, avec une architecture d'époque, une histoire, etc. Et ben je suis servie. Dans toutes les rues, on croise des personnes habillées ou déguisées qui se promènent, qui s'arrêtent dans les terrasses ou un des très nombreux petits salons de thé. C'est juste génial. Alors évidemment, la ville de Bath étant principalement connue pour ses thermes, d'où son nom, dans les incontournables à voir, il y a les thermes antiques. Un musée absolument fantastique, que je recommande à 6000%. Il retrace l'histoire des découvertes archéologiques des bains romains au cœur de la ville, le complexe religieux au sein duquel il fait partie, avec tout un travail de mise en condition, enfin bref, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment à voir. Évidemment, il y a aussi les thermes actuels à faire. Mais malheureusement, pour des raisons économiques et un budget quotidien presque épuisé, j'ai dû faire l'impasse. Alors je rentre, je bois un coup au bar de mon auberge avec les quelques pounds qui me restent. Mais ce que j'adore dans les auberges de jeunesse, c'est que c'est toujours un rassemblement pas possible de plein de gens qui viennent de partout et qui repartent dans 1000 endroits différents. Alors autant vous dire que quand on part à l'aventure en quête de découvertes et d'ouverture sur le monde, bah l'auberge de jeunesse, c'est un bon point de départ. Et alors ce soir-là, j'ai la chance de rencontrer Eric. Eric, c'est un Brésilien de 27 ans qui étudie depuis l'année dernière la sociologie à Birmingham. Alors on papote de tout, de rien, et puis il me dit que même si sa famille lui manque beaucoup actuellement, il a pas trop envie de rentrer au Brésil. Et effectivement, vu le climat actuel, ça aide pas trop non plus. Alors il me raconte son histoire, celle de ses parents, celle de ses amis, Et c'est génial parce que moi, dans la vie de tous les jours, je connais pas de résilient. Alors maintenant que j'ai la chance d'en avoir un en face de moi qui peut m'expliquer réellement les choses, cette situation, cette crise, elle vient d'où? Par où dois-je commencer? Les Occidentaux, et en fait le reste du monde, doivent se rendre compte que nous sommes en plein cœur d'une crise politique et économique, principalement causée par le fantôme de l'esclavagisme et de la dictature militaire. Effectivement, la dictature militaire, elle a sévi de 1964 à 1985 au Brésil, donc ce qui fait que tous les Brésiliens de plus de 40 ans à peu près s'en souviennent très bien. Les cicatrices sont encore visibles et une fracture sociale déchire le pays entre, d'un côté, peur du retour des militaires au pouvoir, et ceux qui pensent qu'au contraire, c'est le seul moyen de sortir de cette crise économique qui est actuellement sans précédent dans l'histoire du Brésil. Donc, c'est compliqué. Et c'est un peu comme ça qu'il m'explique l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, un ancien militaire d'extrême droite, en 2018. Il m'explique aussi qu'actuellement, le pays connaît une sorte de contre-coup des politiques des anciens présidents Dilma Rousseff et Lula, qui étaient tombés tous les deux pour corruption, et que malheureusement, le peu d'État-providence qu'ils avaient réussi à acquérir depuis la fin de la dictature est en train de leur être progressivement enlevé par le gouvernement actuel. Le fait est que nous sommes au bord de la fracture de notre système institutionnel, ce qui entraîne des tentatives de coup d'État que Bolsonaro tente de prévenir en protégeant et en clôturant l'actuel régime. Nous sommes dans un état d'incertitude. Il m'explique qu'au quotidien, cela se traduit par des inflations qui sont complètement alarmantes, que par exemple, personne ne peut plus cuisiner au gaz, c'est devenu beaucoup trop cher et donc il recuisine plus ou moins en bois, puis me parle d'une sorte de montée d'insécurité dans les villes qui est liée à cette incertitude planante de l'avenir, mais aussi à cette fraction sociale qui divise très dangereusement la population. Enfin bref, pas envie de rentrer quoi. Bon, je vous avoue qu'entre-temps, il y a un Irlandais un peu relou qui, d'ailleurs je m'en souviens plus tout de son nom, qui intervient, qui nous parle de son avis sur le Brésil, si bien que je perds un peu Eric dans la discussion et ça divague au fil des mots. Mais je suis déjà hyper contente d'avoir pu l'écouter, de lui poser 1000 questions et d'avoir un vrai point de vue sur la situation actuelle, du danger des politiques, du gouvernement en place et comment ça se répercute réellement dans la vie quotidienne des Brésiliens. En fait, d'essayer de comprendre ce pays qui est très complexe mais fascinant. Bon alors après quelques bières, d'autres sujets qui vont et qui viennent, on décide d'aller se coucher. Mais soirée super enrichissante. Et il est déjà temps de quitter la ville. Et ouais, c'est aussi ça les auberges de jeunesse. On se rencontre, on discute très vite de tout, puis on se quitte tout aussi rapidement. Ce qui fait qu'il y a toujours un peu cette atmosphère qui plane, cet aspect complètement éphémère en fait de la rencontre, qui nous octroie cette liberté de pouvoir tous dire même des trucs hyper touchants comme...
Un conseil, non, parce que je pense que tu te débrouilles déjà très bien. Juste te dire que ça se passera bien. Ça se passe toujours bien.
Ça, c'est Estelle, une Française que je rencontre dans mon auberge Oxford. Bon, première chose, c'est une Française. Donc pas besoin de se concentrer trop pour avoir un échange ou un peu de sociabilité. Ça va tout seul et ça fait du bien. Alors encore une fois, on parle de tout, de rien. Mais bon, il y a quand même un petit sujet qui est inévitable. Qu'est-ce que tu fais là? T'en es où? Tu fais quoi?
Eh ben, je suis à Oxford parce que je finis mon parcours, mon voyage en Grande-Bretagne. Et avant, j'ai fait l'Islande et l'Irlande. Et avant d'aller à Oxford, je suis descendue un petit peu en Écosse et j'ai fait quelques villes en Angleterre.
Ouais, c'est déjà cool. Mais c'est pas tout.
Non. J'ai fait l'Amérique du Sud l'année dernière aussi, un petit peu. J'ai fait quelques pays.
T'as fait quoi comme ville?
En Amérique du Sud?
Ouais.
Ça va prendre un petit peu de temps, mais grosso modo, j'ai fait la Colombie, le Guatemala, l'Équateur, le Pérou et le sud de la Bolivie.
Ouais, pas mal. Pas mal.
Alors évidemment, moi qui débute en tant que nana qui voyage toute seule, je lui pose les questions classiques de la petite trouillarde. Est-ce que t'as flippé toute seule au Guatemala?
Moi, je l'ai jamais senti.
Ouais.
Au Guatemala, j'étais avec une amie, c'était le début de mon tour du monde, mais vraiment, j'ai jamais ressenti ça. Les gens sont vraiment adorables en fait.
Ouais.
Donc, non, je t'avoue que à aucun moment je me suis sentie en insécurité.
Et ça, c'était en quelle année du coup?
C'était en janvier 2020. C'est sublime. En fait, y a tout, il y a la montagne, il y a les volcans. Il y a la mer, il y a des piscines naturelles à Semucchampé, il y a des sites historiques, ouais, wow. Il y a Tikal. Alors je sais plus si c'est la culture maya ou aztèque, franchement j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a de tout. On rencontre des gens formidables, la population est adorable et du coup c'est un combo parfait quoi.
Et c'est pas la première fois que j'entends ça, et c'est vraiment une destination qui me tente de plus en plus. Enfin bref, en entendant Estelle me raconter tout ça, je me dis que j'aurais peut-être pas dû attendre si longtemps pour partir en voyage. Voyager en 2020, c'était pas si compliqué.
Mon pire souvenir, c'était d'avoir été confinée pendant 6 semaines en Bolivie.
Ah.
En Bolivie, on ne pouvait sortir qu'une demi-journée par semaine, uniquement pour faire ses courses. Donc la seule demi-journée par semaine où on pouvait sortir dépendait du dernier numéro de notre carte d'identité ou de notre passeport. Donc par exemple, pour moi, c'était le vendredi matin. Et si on violait la quarantaine, c'était 10 ans de prison.
Ah oui,
ouais.
Ah oui, ok.
Ouais. Donc ça, c'est un souvenir moins fun. Parce
attends,
que
nous, c'était 150 euros d'amende quand même, ou 130, je sais plus, 135.
Ouais, c'est ça. Et là-bas, c'était pas comme ça.
Ok, bon, j'ai rien dit. Allez, un petit mot pour rebooster l'ambiance ?
Non, c'est que je trouve que le voyage, c'est très très formateur et que quand on a envie de le faire, il faut le faire, que c'est toujours extrêmement enrichissant et que ça aide à savoir mieux qui on est. Et quand on sait mieux qui on est, on fait forcément des choix qui nous correspondent plus.
Et encore une soirée au top. Merci Estelle pour tout ça. Et je suis même pas au bout de mes surprises parce que le lendemain, je découvre Oxford, une ville incroyable. Alors les fans d'Harry Potter, ouvrez grand vos oreilles parce que vous pouvez carrément faire un pèlerinage de différents lieux de tournage, comme le réfectoire ou l'infirmerie de l'école. Alors il y a aussi la bibliothèque, mais malheureusement elle se visite pas car elle est toujours d'usage pour les étudiants de l'université d'Oxford. Et ouais, parce que Oxford est surtout connu pour son complexe universitaire. Établie depuis le Moyen-Âge, c'est la plus vieille université d'Angleterre. Donc évidemment, elle reste très importante au sein de la ville, avec une multitude de bâtiments épars, ou bien des schools, des collèges, qui ont évolué au fil du temps, ou non. Donc imaginez un peu l'allure générale de la ville, avec tous ces bâtiments gothiques tardifs. C'est magnifique. Encore une fois, on a l'impression de remonter le temps. Et moi perso, ça m'a donné qu'une envie, c'est de reprendre les études. Et je pensais vraiment pas dire ça un jour, en tout cas pas si vite. Mais bon, ma prochaine étape m'attend. Et je vous avoue que sauter d'une place à l'autre et bouger dans tous les sens, bon, c'est sympa un temps, mais j'en ai un peu marre, j'ai envie de me poser et de défaire ma valise. Et ça tombe plutôt bien, parce que ma prochaine étape, c'est l'arrivée dans ma première famille à la ferme. Et là, les choses vont vraiment commencer pour moi. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Alors à dans 2 semaines.